L'île du géographe. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. Le géographe. Astéroïde 330. Au large des mers, il est des destinées brûlantes vouées à une île qui n'existe pas. Citadelle. Chapitre 41. Je rase l'eau, rivé à mon GPS. Nous avons atterri il y a moins d'une heure à l'aéroport international d'Hamilton. Dans la minute qui suivait, je louais un hydravion. Les crédits alloués par Okodolo sont illimités, autant en profiter, surtout si près de la vérité. Nous continuons de survoler l'Atlantique, quelques dizaines de kilomètres à l'est de l'île principale de l'archipel. 61 degrés 2 minutes ouest. 32 degrés 5 minutes nord.
« Je la vois !»
crie Andy. L'île émerge à peine. Je distingue une micro-plage rose, quelques rochers dressés, une cabane sur pilotis aux formes arrondies comme une petite planète. L'océan est aussi calme que nos cœurs en tempête. Je me pose sur l'eau et laisse tourner les hélices jusqu'à ce que les roues de l'hydravion s'enlisent sur les premiers grains de sable. Un jeune homme nous attend sur la plage, pieds nus, torse nu, menton nu. C'est lui, le géographe? Je m'attendais à un savant à barbe blanche, pas un bellâtre bronzé.
Hoshi m'a prévenu de votre arrivée, déclare notre hôte d'une voix douce. Je m'appelle Stello. Venez, venez.
Nous longeons l'étroite plage. Le sable humide colle à nos pas.
Aucun atlas ne recense cette île, explique le beau Stello. Sans doute parce qu'elle rétrécit à chaque marée. À marée haute, seule la cabane sur pilotis émerge encore de l'eau. On la confond alors avec un bateau.
Nous dépassons un banc de pierre au-dessus de la plage sans nous arrêter.
Curieusement, continue Stello, seule la carte de Piri Reis mentionne ce morceau d'atoll. Peut-être cette île était-elle plus vaste il y a quelques siècles? Peut-être le volcan sous nos pieds s'est-il endormi? Qu'il va se réveiller? Peut-être cette île n'existera-t-elle plus demain?
Les cartes ne notent que les choses éternelles,
récite doucement Andy,
pas les lieux menacés de disparition soudaine.
Tous les deux se sourient comme s'ils se reconnaissaient.
Venez.
Nous parvenons à une seconde plage, plus petite encore, dont on devine qu'elle ne se dévoile qu'à marée basse. Des stèles de granit sont plantées sur le sable rose. Un cimetière. Un cimetière sous-marin. J'observe, stupéfait, la petite dizaine de dalles gravées. Je prends la main d'Andy. Des tombes de navigateurs, d'aviateurs.
Quand ils veulent disparaître, explique Stello, quand le monde les ennuie, ils viennent trouver refuge ici. C'est un secret bien gardé, que seuls quelques aventuriers acceptent de révéler.
Le jeune homme nous désigne une tombe, quelques mètres plus loin.
Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1994.
Tonio a vécu 50 ans ici!
Jambes molles sur le sable mouvant, nous remontons vers le banc. Alors que nous nous approchons de la maison ronde sur pilotis, j'entends des cris. Toujours plus surpris, je reconnais les voix de Swan, Moïsès, Isard et Oko.
C'est ça le paradis de Saint-Exupéry?
Gémit la voix de Swan.
Ce caillou rikiki, c'est pas du tout ce qu'Oshi nous avait promis. Ce vieil allumeur de lanterne a intérêt à s'expliquer quand il va arriver.
Ça, c'est certain, renchérit celle d'Isard. C'était tout de même plus grand quand on se réunissait dans mon palais. Mon pauvre palais parti en fumée.
Mais pas une goutte à boire sur ce caillou,
surenchérit Moïsès.
Rien que de l'eau de mer filtrée.
Je vous aurais bien proposé mon yacht, ironise Oko. Mais il a coulé au fond de la Méditerranée, à côté d'une carcasse de P-38 et d'un stylo Parker 51.